Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Gisèle Mouéou, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes magistrat au parquet de grande instance Kinshasa Gombe. Oui, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de l'usage des faux et connaître quelles sont les sanctions prévues par la loi. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par usage des faux? Faux et usage
oui,
des faux.
Merci pour la question et surtout pour l'invitation. Mmh. Oui, l'infraction. Quand vous prenez le titre, la section première du titre 3 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour, nous entrons dans la catégorie des infractions contre la foi publique. Et les articles 124 jusqu'à 126 de ce Code pénal, tel que modifié à ce jour, prévoient l'infraction, donc, ou les infractions de faux en écriture et de usage de faux. Alors, l'infraction de faux en écriture a été définie par le législateur quand vous prenez l'article 124 du code de procédure, code pénal, livre 2 tel que modifié à ce jour. Mm-hmm. Les faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 000 ou une de ces peines seulement. Lorsque vous prenez cette disposition, vous trouverez que les faux consistent tout simplement à l'altération de la vérité dans un écrit. Et cette altération de la vérité doit être faite dans l'intention soit de nuire, soit d'accorder un préjudice illicite ou indu à une personne. Alors, cette altération de la vérité, elle se présente sous deux formes. Donc, il peut y avoir le faux intellectuel et il peut y avoir le faux matériel. Le faux intellectuel, souvent, est commis par... consiste à faire des déclarations, soit devant un officier d'état civil. Mmh. C'est comme, par exemple, lorsque quelqu'un se présente devant l'officier d'état civil, il prétend être le père. Vous savez que la filiation, c'est... C'est cette voie par laquelle un parent doit reconnaître son fils. Alors, il peut arriver que quelqu'un se présente devant l'officier d'état civil, il fait des fausses déclarations, il n'est pas le père de l'enfant, mais il déclare. L'officier d'état civil dresse un acte d'état civil. Cet acte, c'est l'extrait d'acte de naissance. Cet extrait d'acte de naissance contient une altération de la vérité. Et cette altération de la vérité est dans... le fait que les énonciations ou le contenu de cet acte a été altéré. Par le fait que la personne qui s'est fait passer pour le père n'était pas le père. Mmh. Voilà, ça c'est un faux intellectuel. Le faux peut être matériel lorsqu'il est par sous forme de... On peut raturer un document, on peut apposer une signature sur un document, on peut ajouter... des mentions, hein, tout comme on peut soustraire certaines mentions,
oui.
Hein, les remplacer par d'autres, mmh. Et ces faux-là est considéré matériel parce que il est contenu dans l'instrumentum qui est un écrit.
Alors, prenons par exemple ceux-là qui imitent les signatures des autorités. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'imitation des signatures. Alors,
c'est déjà une altération de la vérité. Mmh. Et cette altération de la vérité consiste dans le fait d'imiter la signature, n'est-ce pas? Et mmh. Cette apposition, donc quand vous apposez la signature sur un document, en vous faisant passer pour l'auteur de la signature par voie d'imitation,
oui.
C'est le faux consiste dans l'altération de la signature. Cette signature a été altérée. Donc, la signature qui a été altérée, c'est une signature qui ne contient pas la vérité. Donc, c'est la vérité a été altérée. C'est pour cela qu'on dit toute altération de la vérité dans un écrit mmh. est constitutif de l'infraction de faux.
Oui, mais juste le mot, il y a certains
vous
qui...
Vous pouvez
oui.
il y a certains... obtenir des faux documents,
oui.
N'est-ce pas, et vous en faites usage. Vous les avez confectionnés. C'est dans le but de les utiliser, n'est-ce pas? Tout comme vous pouvez les confectionner, mais c'est une tierce personne qui n'est pas l'auteur du faux matériel ou intellectuel,
oui.
Mais lui, il vient tout simplement les utiliser, tout en ayant connaissance que les documents qu'il faisait usage contenaient l'altération de la vérité. Alors, à ce moment-là, celui-là est poursuivi sur base de l'article 126, hein, qui réprime l'usage des faux. Et cet usage, lorsque c'est une tierce personne qui utilise le faux document en ayant connaissance qu'il utilisait les documents dont il faisait usage, enferme une altération de la vérité,
oui.
Cette personne-là sera poursuivie comme s'il en était l'auteur même du faux. Voilà.
Voilà. Alors, nous avons des auditeurs en ligne, Freddy Kabamba et Talumbashi et Roger Tchaba Kananga. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kati.
Quelle est votre question?
Ça va. Moi, je voulais demander à notre invité. Et vous voyez, d'autres fois, par exemple, ici à Lumbashi, les gens qui travaillent dans les cadastres, ils vendent une même parcelle à peu près 3 personnes. Les mêmes documents vont écrire à telle personne. Les mêmes documents vont écrire à telle personne. À ce moment-là, cette personne-là, elle va se trouver, dans les moments de faire des chantiers, il va se retrouver à peu près 4 personnes dans une même parcelle. Et que la loi peut prévoir comment à ce cas-là. C'est ça que je voulais savoir et j'ai dit je vous remercie.
Merci. Roger Tchaba de Kananga, bonjour.
Bonjour Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati.
On vous écoute?
Oui, j'ai un exemple très typique qui se passe chez nous ici à Kananga.
Oui.
Et c'est par là que je pourrais poser une question à l'invité.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
J'ai un ami ici à Kananga qui est allé faire une attestation de résidence à la commune. En arrivant à la commune, tout d'abord, il faut passer chez le secrétaire pour vous enregistrer dans un cahier et après passer maintenant chez le bourgmestre pour mettre la signature ainsi que son nom. Maintenant, vous arrivez chez le secrétaire vous dit que non, s'il vous plaît. Tant que le bourgmestre est là, il vous dit que s'il vous plaît, rentrez et venez chez moi à 19h, je pourrai te donner ces documents. Et lorsque vous arrivez à la maison, parfois c'était 5000 francs pour trouver le document. Maintenant, il vous demande 3000 francs.
Mmh.
En ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec de telles personnes? C'est un usage de faux ou bien c'est un document valable? Et la deuxième préoccupation...
Alors, Roger, cet agent de la commune avait les cachets et il a imité la signature du bourgmestre.
Les noms d'un bourgmestre de la commune ainsi que sa signature. Tant que lui, son nom ne figure pas sur ces documents.
Ok.
C'est dans ce sens-là. Maintenant, la deuxième préoccupation, nous sommes allés avec mon frère pour trouver un permis de conduite pour sa moto. Mais en arrivant, c'est la même situation qui se passe encore au BMR. Le monsieur dit que non, rentrez et venez après, nous allons causer. En rentrant, il donne toujours des documents comme ça. C'est pour cela que je pose la question à l'invité, de telles personnes aussi acquis avec cette loi ou pas.
Bien, merci Roger. Jérémy Mido, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Bon, je ne sais pas, mes prédécesseurs ont déjà tout dit, mais c'est ma préoccupation est celle-ci. Donc, quelqu'un qui fabrique donc des cachets, quelqu'un qui fait des signatures déjà passées par là, mais les types en question, quand on l'arrête, toujours on part même dans une parquet comme ça, mais vous voyez, étant ces types est dehors, donc on les fait sortir. Donc, ils continuent à faire toutes ces choses-là, donc... Mais toutefois, je ne sais pas, c'est la complicité de ces messieurs-là avec les magistrats du parquet ou quoi, je ne sais pas si l'invité peut nous donner.
Alors, vous avez eu des cas pareils à Bandundouville?
Oui, c'est pareil, ça se fréquente aussi beaucoup. Donc les gens comme ça, on l'arrête quelque temps pour les voyer, on les a fait sortir, mais ça motive ça, donc des peines valables là, je ne sais pas.
Merci. Alors Gisèle Mouéou, la première question, c'est celle de Freddy Kabamba, de Lubumbashi, qui dit au niveau du cadastre, on délivre par exemple un certificat d'enregistrement à 3 personnes, 4 personnes pour une même parcelle. Alors, il veut savoir si ça rentre dans les cas de défaut et usage défaut.
Oui, ça c'est nos compatriotes qui travaillent dans ces ministères-là, avec toutes ces divisions qu'il y a par rapport à ce service de l'État. Lesquels services, en principe, devaient être animés par les personnes de bonne moralité. Je vous ai dit, quand vous prenez les titres qui concernent l'infraction de faux, ce sont les infractions contre la foi publique. Donc, on a besoin des personnes de bonne moralité pour ne pas altérer la vérité dans un écrit. Et vous comprendrez que il y a 7 de nos compatriotes qui sont dans ce service-là, qui ne vivent que de l'altération de la vérité, au point même d'amener à ce que, devant les cours et tribunaux, qu'il y ait plusieurs procès en rapport avec les terres. D'abord, il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à poser les actes, mais qui font croire aux autres qu'ils sont en mesure de le faire. Et pour cela, il procède à l'altération de la vérité, soit par imitation des signatures, parce que lorsque vous voulez obtenir un certificat, il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Certes, la volonté du certificateur aurait souhaité qu'avant que le certificat ne soit délivré, que le dossier soit transmis au procureur, parce que le certificat contient toujours les paraphes du procureur de la République, tout simplement pour éviter que ce certificat-là ne soit attaqué en faux parce que aura contenu certaines mentions qui ont leur origine dans l'altération de la vérité. Mmh. Alors nos amis des cadastres là, il faut toujours, chaque fois que vous vous présentez là-bas, veiller à ce que une personne ne puisse pas altérer la vérité dans un écrit. Parce que lorsqu'il altère la vérité, la conséquence c'est que les titres, lorsqu'on aura la fraude ayant comme conséquence de tout corrompre, la faute corrompt tout, il y a conséquence que ce certificat-là soit appelé une fois à être annulé.
Voilà.
Mais la prudence aurait souhaité que chaque fois que vous vous trouvez devant ces agents-là, que vous soyez plus prudent que l'homme moyen, parce que c'est déjà un réseau de mafieux.
Voilà, il y a Roger Tchaba qui était allé à la commune, à Kananga, pour demander une attestation de résidence. Voilà, un agent de la commune lui dit, bon, viens me voir le soir à la maison. Il passe à la maison, ce monsieur lui délivre un document moyennant 3000 francs au lieu de 5000. Ce document porte la signature du bourgmestre et le cachet même de la commune. C'est des choses qui arrivent très souvent.
Oui, ça arrive. Par moment, ils mettent même le nom des anciens bourgmestres. Donc, vous allez trouver tous ces gens, ils sont les premiers quand vous arrivez à la maison communale, vous trouvez des gens qui vous reçoivent, qui ne sont même pas de service de protocole, ils sont dans la cour et ils ont toutes les signatures des anciens bourgmestres, tout ça, et ils peuvent facilement imiter. Oui. C'est un faux. Et les faux là-bas, lorsque on les découvre que c'est un faux, vous avez l'obligation de pouvoir dénoncer cet agent là-bas et à ce moment-là, il sera poursuivi sur la base de l'article 125. En tant que fonctionnaire, lorsque le faux est commis par un fonctionnaire, ce faux est puni de 10 ans de servitude pénale. À la différence, lorsque le faux n'a pas été commis par un fonctionnaire. Donc, ce sont des cas à pouvoir dénoncer. Notre ami doit savoir que, pour autant qu'il y a eu imitation de la signature, c'est une altération de la vérité.
Bien.
C'est pour cela que le législateur dit, il faut que ça soit dans l'intention de nuire ou pour s'accorder un avantage illicite. Et l'avantage, je le cite ici, il s'est fait remettre 3000 francs.
Oui.
Alors qu'il fallait payer
5000 francs.
Sur la voie normale, 5000. Il n'y a pas seulement ce cas-là. Vous allez trouver avec nos amis qui sont de la DGAD, même ceux qui sont dans les circuits de banque, par rapport au bordereau de versement, par rapport aux notes de perception, et les Congolais lui-même. Au lieu qu'il se transporte lui-même, il tombe toujours sur un réseau de gens, laissez-moi moi-même, je vais aller payer pour vous à la banque, ainsi de suite. Et là, ils entrent dans leur réseau, ils établissent de faux bordereaux qui ne peuvent pas, vous croyez que l'argent a été versé dans les comptes du trésor public, mais c'est entré dans
un compte privé.
dans les comptes privés, et surtout maintenant avec la cybercriminalité,
oui,
il y a possibilité d'imprimer le même bordereau de versement tel que c'est imprimé par les banques. Mais quelqu'un chez lui, à la maison, il peut imprimer ça et il se met à délivrer aux gens. Et les gens se servent de ça comme preuve. Donc vous comprenez déjà qu'il y a lieu que les personnes qui doivent travailler dans ces services-là doivent être des personnes de bonne moralité. Pas ces infractions touchent à la fois public.
Bien. Ami Sifata qui nous appelle, oui, nous appelle de Kindu. Avant de répondre à Jerry, oui, on va accueillir Ami Sifata qui de Kindu et Blanchard Luana de Kinshasa.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Faux et usage des faux, quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise? Ami Sifataki nous appelle de Kindu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre question?
Voilà, j'ai deux petites questions. Avant de passer à ces deux petites questions, j'aimerais d'abord soulever une observation. Alors, l'usage du faux et faux écriture, qui sont les auteurs de l'usage de faux, des faux de documents? Ce sont d'abord, en premier lieu, ce sont les agents des services publics de l'État. Parce que, vous savez, la population est ignorante. La population ne maîtrise pas la procédure pour obtenir un document. Ils arrivent dans des bureaux, ils sont reçus par les agents de l'État. Ce sont les agents de l'État qui délivrent, qui donnent des documents. Voilà ce que j'aimerais dire. Voilà, ce sont les agents d'abord de l'État qui sont d'abord les auteurs. Voilà, je passe directement aux questions, à mes 10 petites questions.
Oui.
Alors, j'aimerais d'abord poser une question à notre invité. Par exemple, une population, donc un individu se présente dans un bureau, comme je l'ai dit encore sur les agents de l'État qui sont les auteurs, qui se présente là-bas. Lui ne maîtrise pas, lui ne connaît rien de ce qui se passe dans les services. Lui est allé payer un document. Il arrive là-bas, il paye un document. Pendant qu'il y a eu la mafia dans l'obtention, dans la livraison de ce document-là, le monsieur quitte avec les documents. Alors quand ce monsieur est attrapé avec ses documents, lui en étant ignorant de savoir que voilà, c'était un faux document, on l'arrête. Est-ce que ce monsieur-là peut être puni pour l'usage de faux pendant que lui s'est présenté dans un service compétent? Voilà, c'est la première question. La deuxième question,
oui,
j'aimerais demander à l'invité, pour mettre fin à l'usage de faux, qu'est-ce que lui préconise? Qu'est-ce que lui pense pour mettre fin à l'usage de faux? Parce que ça devient une monnaie courante dans les services de l'État. Par exemple, lui a parlé de service de cadastre. Là, c'est pire encore. Les documents, on se promène avec les documents officiels dans des petites sacoches comme ça, dans des mallettes.
Dans des mallettes.
On les voit comme des cacahuètes.
Avec des cachets, tout ça. Oui.
Voilà. Maintenant, pour mettre fin, qu'est-ce qu'il vulgarise? S'il y a une loi, pourquoi on ne veut pas vulgariser cette loi-là et au service, aux agents de l'État, pour que ces agents-là puissent prendre connaissance de la loi, ou soit de la loi qui parle de l'usage de faux. Alors, pour terminer, monsieur le journaliste, voyez, dans des radios comme ça qu'on suit de bonnes choses, on est informé. Mais ce qui est grave ici chez nous, les gens ne suivent pas, des informations à la radio. Est-ce qu'ils ne circulent pas mieux de descendre sur terrain et de vulgariser ça, d'organiser des séminaires auprès des agents pour que la situation puisse bien marcher?
Bien, merci Ami Sifataki qui nous demande de descendre sur terrain pour faire des sensibilisations. Bien, bon, c'est une proposition, on ne va pas la rejeter, merci. Blanchard Luana, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est de savoir, je prends un exemple. Une personne qui s'appelle, par exemple, Songolo Pakala, dans sa carte d'identité, donc la carte de lecteur, et dans une fiche d'identification, par exemple, du réseau Vodacom, il écrit Pakala Songolo, et il change sa date de naissance. Est-ce que cette personne-là, il est sous la commission d'une infraction d'usage de faux?
Bien, merci. Clément Mouya, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Je voulais poser la question à l'invité. Qui peut se saisir du faux? Et comment distinguer le vrai au faux? partant de mon exemple, il y a les documents pré-signés avant la donc avant de mettre le nom, l'identité et autres, il y a déjà des documents déjà signés et les services circulent dans les rues en train de lire ces documents ou les services circulent dans les rues avec les cachets, avec les signatures et tout et tout. Et tout.
Oui.
Une fois qu'on vous livre ce document et que les services, un autre service habilité, dit que c'est un faux, quel est le vrai et quel est le qui peut donner la vraie identité du vrai et du faux? Et quels sont les éléments constitutifs, les éléments moraux et les éléments matériels ou les éléments physiques pour la constitution d'une infraction d'usage de faux?
Bien, merci Clément. Alors, juste les mots, on va commencer par Jérémy de Bandounouville qui s'étonne. Il dit qu'à Bandounouville, on a déjà arrêté certaines personnes à cause de cette infraction, mais ces personnes sont relâchées juste après.
Oui, il est vrai que la relaxation ou la mise en détention n'est pas l'apanage d'une victime d'une quelconque infraction. L'un des moyens de faire l'avocat du diable puisqu'étant magistrat, il est vrai que ne connaissant pas dans quelles conditions la personne a pu être recouvrer sa liberté s'il est en détention, il peut avoir bénéficié de la liberté provisoire. Ça peut être ainsi. Mmh. Il peut aussi arriver pour certains cas. Ça, peut-être la population aussi n'est pas informée.
Oui.
Il y a la notion de la prescription de l'action publique. Il y a la notion de la prescription de l'action publique. Pour le faux, la prescription, c'est 3 ans. Si l'auteur d'un faux, il peut, 3 ans après, si il n'est pas poursuivi,
oui,
quand on découvre 3 ans après,
mmh,
on peut constater que l'action publique est couverte par l'effet de la prescription. Donc, cette infraction peut être couverte par l'effet de la prescription de l'action publique. Donc,
bien,
ça veut dire,
oui,
l'organe de la loi ne peut pas procéder à l'arrestation. Il y a d'autres,
oui,
cas.
Mmh.
Alors là, c'est question d'examiner. Il peut arriver que l'auteur du faux soit lui-même, c'est lui-même qui en fait usage. L'on dit, lorsque l'auteur du faux en fait usage,
mmh,
la prescription commence à courir à dater du dernier acte de son usage. N'est-ce pas?
Oui.
Alors, à ce moment-là, il ne sera pas poursuivi pour faux en écriture et usage de faux. Il ne sera poursuivi que pour avoir commis un faux en écriture parce qu'on commet les faux qu'avec intention de nuire ou de s'accorder un avantage illicite.
Bien.
Donc, c'est pour dire, l'altération de la vérité,
oui,
n'est faite que par rapport à un avantage illicite qu'on doit pouvoir s'accorder,
mm-hmm,
ou dans l'intention de nuire.
Alors,
lorsque un des éléments, par exemple,
oui,
l'intention de nuire n'existe pas,
oui,
la personne ne peut pas être poursuivie. Un des éléments faisant seulement défaut, les gens peuvent être surpris. Là, c'est pour répondre à une des questions d'un paisible citoyen qui s'est retrouvé dans un bureau de l'État, ne sachant pas, ignorant de tous les mécanismes pour obtenir les documents.
Oui.
Il se présente, on le reçoit, on lui dit, bon, déposez, passez tel jour, vous allez retirer les documents. Ça se trouve dans les signataires du Bougoumain. Et pendant ce temps, ce n'est pas entré chez le bourgmestre, c'est un agent qui établit ça. Il peut aller lui produire ses documents devant les services de l'État.
Mmh.
Lorsqu'il produit ses documents devant les services de l'État, la conséquence, c'est que on va constater que c'est un faux document. Lui, il en a fait usage. Est-ce qu'il savait? Lorsqu'il ignorait cet état des choses,
mmh,
l'infraction d'usage de faux ne sera pas cristallisée dans son chef. Et ceux qui l'ont vu être arrêté peuvent être surpris de le voir dehors. Voilà, ça c'est l'aspect par rapport à l'usage des faux. Il faut que la personne qui utilise ait connaissance que les documents qu'il est en train d'utiliser,
mmh,
contiennent l'altération de la vérité. S'il y a cet élément fait défaut, on ne pourra pas l'arrêter
on peut peut-être l'arrêter pour le mesure d'enquête pour essayer de retrouver, parce qu'un des auditeurs avait posé la question, comment on peut distinguer le faux du vrai, n'est-ce pas?
Oui.
Mais ça peut demander, par exemple, imitation des signatures. Il y a des spécialistes, des experts en cette matière. On recourt à ces experts-là, ils peuvent tout de suite là déceler que cette signature a été imitée. Lorsqu'il y a un rapport de l'expert, ça nous permet d'établir réellement que vous avez altéré la vérité dans un écrit.
Voilà. Bon. Il y a aussi
une autre question.
Oui,
par rapport au sceau.
Voilà, juste un mot. Avant d'arriver au sceau, il y a la question de Blanchard de Kinshasa qui dit un monsieur va se faire enregistrer quelque part, par exemple, pour obtenir un document officiel. Alors, il donne le nom Songolo Pakala. Alors,
il
va ailleurs.
Il y a eu altération.
Oui, il donne.
Il change de nom. Il va se poser un problème.
Oui.
La question qu'on lui posera, pourquoi a-t-il préféré changer cette identité? Vous savez, l'identité fait partie, le nom est parmi les attributs d'identification d'une personne. Lorsque vous changez un seul élément du nom, c'est de vous donner à ce nom-là une autre identité. Ce n'est plus la même personne qui s'est fait enrôler. D'ailleurs, rappelez-vous, même quand vous prenez la loi sur l'enrôlement, il y a des gens à l'époque où ils devaient se faire enrôler, ils sont allés se faire enrôler dans deux ou trois plusieurs centres. Et ils ont bénéficié des cartes d'électeur en changeant tout simplement un seul élément du nom. Et lorsqu'ils changent un seul élément du nom, comme les données sont dans une base de données, ça va donner une autre... Ça ne va pas tout de suite là. L'informatique ne va pas relever que c'est la même personne. Mmh. Mais c'est après la collecte de données qu'on peut retrouver que non, c'est le même visage, il s'est fait enrôler là, il s'est fait enrôler là. Et plusieurs de ces cas-là, la CENI avait transmis au parquet pour que les personnes soient poursuivies. Donc cette personne qui s'est présentée à Vodacom en changeant l'identité, s'il a fait dans l'intention tout simplement de nuire ou de s'accorder un avantage illicite,
oui,
il est poursuivable pour faux. C'est ainsi que l'occasion pour vous de demander, raison pour laquelle on a toujours évité que les cartes SIM et toutes ces choses-là se vendent sur la place publique, parce que les gens peuvent facilement changer leurs identités, comme on n'a pas un mécanisme de contrôle, parce que les premiers éléments qui sont entrés chez Vodacom demeurent ces éléments-là. Mais quand quelqu'un achète une SIM de 200 francs sur la voie publique ici, il peut donner n'importe quelle identité. Les vendeurs d'abord qui vendent, ils n'ont pas la possibilité de vérifier si la personne est munie d'une carte de lecteur ou pas. Et s'il n'est pas munie d'une carte de lecteur, lui, il vise qu'on lui achète. Hein, parce que quand il a trop vendu, la société qui l'a envoyé va lui donner un pourcentage pour ça.
Alors,
voilà
oui,
un peu une façon de dire, pour lutter à toutes ces choses-là,
oui,
je vous ai dit par rapport aux agents des services de l'État. On ne peut pas engager dans un service de l'État les personnes qui ne sont pas de bonne moralité. C'est pour cela qu'il existe le code d'éthique et d'ontologie de l'agent public.
Alors,
juste
les mots où il y a aujourd'hui.
Juste les mots où. Ce sont les infractions contre la foi publique.
Ouais, alors,
donc, il n'y a que des gens de bonne moralité,
oui,
qui peuvent travailler dans ces services de l'État-là. Commençant par la commune, les cadastres, que ce soit même dans les services judiciaires. Il faut qu'il y ait des personnes de bonne moralité. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour faux, ça ne sert à rien de le garder. Il suffit seulement que cela soit établi. C'est vrai, vous avez vu, les législateurs, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire, la peine est aggravée par tout simplement le fait qu'un fonctionnaire ne peut pas commettre. Or, les cas sont plus les gens, ce sont les fonctionnaires qui
les
sont
fonctionnaires de
les premiers à être auteurs de ces faux, parce qu'ils savent manipuler. La population qui vient là-bas, c'est une population ignorante, qui n'est pas informée des mécanismes, et on profite de l'ignorance de la population pour commettre les faux en écriture.
Alors,
ça ne pose pas de problème, mais ça aura causé un préjudice. Plus tard, on peut retrouver que les documents qui avaient été introduits, c'est un faux document. Or, lorsqu'on aura utilisé, c'est le dernier usage, si se passe 3 ans après, on va dire qu'il n'y a pas moyen de poursuivre sur le plan pénal parce qu'il y a déjà prescription de l'action publique. Voilà un peu les rapports.
Alors,
maintenant, au sceau.
Oui, au sceau.
Vous comprendrez que lorsqu'on appelle le ministère de la Justice, maintenant on a dit c'est le ministère de la Justice
et des droits humains. Oui.
Mais dans le passé, on appelait ça ministère de la Justice et garde des sceaux. Cela veut dire quoi? tous les sceaux qui doivent être en circulation dans un pays, les gardiens de ces sceaux-là, c'est les ministres de la justice. Et les ministres de la justice, aucun sceau ne peut être utilisé dans la ville sans que ce sceau sans que les fabricants doivent être connus et ils doivent être répertoriés au ministère de la justice.
Oui.
C'est le ministère de la justice qui est le gardien. Alors ici, nous constatons que quelqu'un peut aller à la commune, il peut aller à Victoire, tout ça, vous trouvez, aujourd'hui, si vous voulez avoir certains documents, par le comportement de certains de nos compatriotes, ils ont même les sceaux. Mais comme on ne vérifie pas que c'est le ministère qui doit donner à chaque service de l'État les sceaux, c'est chacun qui se trouve
qui
un
sceau. Qui se fait fabriquer des
quand
sceaux.
Quand quelqu'un accède au pouvoir, il préfère lui mettre les sceaux à son nom. D'abord, les gens qui viennent même lui livrer ces sceaux là-bas, quand vous le voyez, tout de suite, vous sentez que ce sont des gens qui peuvent falsifier facilement les documents.
Oui.
Nous aimerions que, à travers votre mission, ceux qui sont appelés à nous suivre sachent que le ministère de la Justice doit garder encore ses prérogatives en tant que gardien des sceaux.
Éviter
à ce que la population tombe dans le réseau des fausseurs parce qu'ils peuvent établir un document, ils mettent les sceaux, alors que les sceaux-là, c'est un sceau qui contient l'altération de la vérité. Pour déceler, il faut que l'expert qui a été agréé au ministère, puisse vous dire, voilà, les sceaux que nous avons déposés pour tel service au ministère, c'est celui-ci. Mais celui qu'on a, posé sur les documents, n'est pas celui-là, donc on peut déclarer ces documents-là des faux. Avec comme conséquence, si ça donnait des avantages illicites à un individu, on peut obtenir l'annulation de ces documents-là.
Bien.
Voilà, d'une manière générale.
Oui.
Mais l'appel que nous pouvons, parce qu'on m'a demandé quelle est ma vision par rapport à ça.
Rapidement, on a plus
d'abord
assez de temps.
Est celle de voir que les services qui sont concernés par l'administration publique ne peuvent pas être, et ça j'ai continué à persister, ne peuvent pas être animé par des personnes de mauvaise moralité ou les personnes des immorales, telles que je les appelle, parce que ils sont les premiers et ils doivent protéger. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui ne peut pas être recruté dans la fonction publique s'il n'est pas de bonne moralité. Or maintenant, comme l'administration connaît des problèmes, bon, c'est tout le monde qui amène ses frères et sœurs, ainsi de suite, même en altérant même la vérité, déjà par l'acte de domination. Ça conduit que ces personnes qui n'ont aucune notion de l'éthique de l'agent public de l'État et puissent se livrer à cette pratique.
Merci, on n'a plus assez de temps. Merci beaucoup, on va poursuivre cet entretien peut-être prochainement. Merci pour toutes les informations données. Je rappelle que vous êtes magistrat au parquet des grandes instances Kinshasa Gombe. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.